la police découvre un cadavre et une note dactylographiée. Un expert devra tenter de lire entre les lignes afin d'identifier le meurtrier. Un assassin décrit son crime sur papier, puis détruit ses notes. Les détectives devront tout faire pour qu'il soit jugé et condamné malgré la destruction de cette pièce à conviction importante. Une liste de choses à faire, gribouillée sur un bout de carton, fait mention d'une tâche qui sort de l'ordinaire, tuer. Les détectives devront faire appel à des graphologues afin de prouver qu'il y a eu meurtre prémédité. Les experts en analyse de documents jouent un rôle important au sein des techniques de la criminalistique. Pour eux, bout de papier ou ruban de machine à écrire sont aussi révélateurs que si le meurtre avait été signé de la main de l'assassin. Le 6 février 1995, à Minneapolis, aux États-Unis, la police reçut un appel d'urgence de la résidence de Ted Mills. Des agents de police furent immédiatement dépêchés sur les lieux. Mamie Hernandez Mills et son fils Nathan Latou revenaient de la clinique dentaire lorsqu'ils avaient découvert la maison saccagée et Ted Mills assassiné. Ce dernier avait été tué d'un projectile de fusil de chasse à la tête. La porte arrière de la maison avait été forcée. Les vêtements éparpillés à travers la maison semblaient indiquer qu'il s'agissait d'un cambriolage qui avait mal tourné. Les policiers découvrirent alors une note dactylographiée sur un bout de papier jaune. On pouvait y lire « Ça, c'est pour notre copain que tu as envoyé en tôle. Repose en paix. » Cet indice était très précieux. Le texte fournissait un mobile au crime. Quant au type de papier et d'encre, ils allaient peut-être se révéler utiles par la suite. Le sergent David Palmer, de la section des homicides de la police de Minneapolis, demanda à la spécialiste Karen Runyon de l'aider à comprendre le sens de ces quelques lignes. Le champ d'expertise des analystes de documents est vaste. On fait appel à eux pour identifier l'auteur d'une fausse signature, d'une note manuscrite ou d'un texte dactylographié. Ils utilisent ordinateurs, microscopes et procédés spéciaux pour examiner les fibres du papier et les particules de carbone d'un ruban de machine à écrire. Karen Runyon allait devoir essayer de tirer le maximum de ce bout de papier.
Les policiers ont découvert cette note et me l'ont apportée. J'ai commencé par l'examiner attentivement. Elle avait été écrite à l'aide d'une machine à écrire équipée d'un ruban carbone. Pour moi, cela signifiait que si nous pouvions mettre la main sur ce ruban, nous pourrions peut-être y retrouver ce message.
Karen Runyon spécifia aux agents de police de rechercher une machine à écrire électrique équipée d'un ruban carbone. Tandis que Karen procédait à ses analyses, les détectives interrogèrent l'épouse de la victime et son fils. Mamie et Nathan déclarèrent qu'ils étaient chez le dentiste au moment du meurtre. De la clinique, ils avaient téléphoné à la maison, mais n'avaient pas obtenu de réponse. Ils ne s'en étaient pas inquiétés, car Ted travaillait la nuit et dormait le jour. Sans doute n'avait-il pas entendu le téléphone sonner. La note découverte par la police semblait indiquer que le meurtre avait été motivé par la vengeance. Le mobile était plausible, puisque Ted avait déjà dénoncé un voleur et que ce dernier avait été incarcéré. Selon le sergent Palmer, cependant, il pouvait s'agir d'une manœuvre de diversion.
Il y avait une part de vérité dans tout cela. Nous ne pouvions l'ignorer. Mais en même temps, nous savions par expérience qu'un cambrioleur ne retourne généralement pas sur les lieux d'un crime pour tuer quelqu'un qui l'a identifié.
Pendant l'interrogatoire filmé de Nathan Latou, ce dernier déclara à la police qu'il avait aperçu un revolver à côté du corps de Mills, mais les policiers ne retrouvèrent jamais l'arme. Pourquoi la déposition de Latou ne concordait-elle pas avec certains éléments de leur enquête?
Les Mills avaient deux chiens qui aboyaient dès qu'un étranger arrivait. Comment expliquer que Ted Mills ne se soit pas réveillé?
Le meurtrier était donc vraisemblablement un habitué de la maison. Mamie et Nathan avaient un alibi. La police était parvenue à retracer l'appel téléphonique de la clinique au moment du meurtre. Mais un autre détail agaçait Palmer. Les cambrioleurs n'ont pas l'habitude de saccager une maison de façon aussi ordonnée. La police s'interrogeait aussi à propos de l'appel de Latou au service d'urgence.
Il en savait trop. La plupart du temps, quand ces gens nous appellent, ils sont dans un état d'hystérie. Ils ont même du mal à nous dire quelle heure il est. Généralement, ils ne font que crier, pleurer et nous supplier de leur envoyer quelqu'un, de les aider. Mais là, c'était différent. Nous avions comme un doute.
Quelque chose dans cette histoire sonnait faux. Les morceaux s'emboîtaient mal. On avait également découvert une empreinte digitale sur la fenêtre qui avait été forcée lors de l'entrée par effraction. L'empreinte appartenait à Nathan Latou. Lorsqu'il fut confronté à cet indice incriminant, Latou passa aux aveux. Quelques jours avant le meurtre, sa mère lui avait demandé d'écrire à la main les phrases dactylographiées sur la note découverte près du corps de Mills. Si Nathan Latou avait écrit ce message à la main, cela laissait supposer que Mamie l'avait dactylographié. Mais elle était incapable de lire ou d'écrire en anglais et il n'y avait aucune machine à écrire chez elle. Avec quelle machine avait-elle pu écrire le message ? Les aveux de Nathan allaient peut-être permettre aux détectives de restreindre leur champ de recherche. Comme les Mills gagnaient leur vie à faire l'entretien de résidence, peut-être qu'un de leurs clients possédait une machine à écrire. Les détectives découvrirent bientôt que l'un d'entre eux en possédait une équipée d'un ruban carbone. On pouvait d'ailleurs aisément y lire les derniers mots du message. La police réquisitionna aussi des bloc-notes semblables à celui dont provenait le message. Le ruban fut envoyé à Karen Runyon pour analyse. Cette dernière fut heureuse de constater que la cartouche se trouvait toujours dans la machine à écrire. Si le ruban avait été utilisé jusqu'au bout puis jeté aux ordures, l'enquête aurait été compromise. Karen Runyon ouvrit la cartouche avec soin et vérifia si le message s'y trouvait au complet. Le message avait été dactylographié à 3 reprises. Ce qui laissait présumer que son auteur n'était pas familier avec ce genre d'appareil.
Les deux premières fois, il y avait des fautes d'orthographe. La personne qui avait tapé le message ne semblait pas savoir que la machine était équipée d'un système correcteur, et elle l'a donc recommencé à partir du début.
L'étape suivante consistait à comparer les fibres de papier transférées sur le ruban.
À chaque pression d'une touche, des fibres de papier adhèrent au ruban en même temps que le carbone adhère au document.
Ces résultats étaient concluants. Les fibres qui avaient adhéré au ruban étaient les mêmes que celles du papier de la note. Grâce à l'expertise de Karen Runyon, la sordide histoire contenue dans la cartouche commençait à prendre forme. La cartouche de la machine à écrire recelait des informations importantes à propos du meurtre de Ted Mills. Bien que les indices fussent microscopiques, ils n'en avaient pas moins de poids. Karen Runyon avait démontré le lien entre le message et la machine à écrire. Quant aux policiers, ils avaient démontré le lien entre la machine à écrire et Mamie Hernandez Mills. Mais il restait à reconstituer le meurtre. Il fallait déterminer le rôle et le mobile de Mamie. Le sergent Palmer tenta à nouveau d'obtenir des informations de son fils, Nathan Latou.
Il a déclaré que sa mère a saisi le fusil de chasse de son mari dans le placard à l'étage et qu'elle a tiré sur lui pendant qu'il dormait dans son lit. Nathan a ensuite pris l'arme et l'a cachée dans une pièce au sous-sol, près de sa chambre à coucher. Nathan a fini par nous dire à moi et à mon collègue, le sergent Krebs, ce que nous voulions savoir, c'est-à-dire que sa mère et lui étaient coupables du meurtre de Ted Mills.
Mais Nathan Latou jura qu'il n'était pas celui qui avait appuyé sur la détente. Malgré le fait qu'il impliquait sa mère dans le meurtre, il était très inquiet de ce qui allait lui arriver.
Il avait peur des conséquences pour sa mère, plus que pour lui-même. Il était inquiet, très protecteur de sa mère pendant toute cette affaire. Il n'arrêtait pas de nous mettre en garde et de nous dire de ne pas lui faire de mal.
À un certain moment pendant l'interrogatoire, lorsque la pression commença à être trop forte, Mamie accusa son fils. Elle déclara à la police que Nathan l'avait violée sous la menace d'une arme à feu. Lorsqu'il entendit l'accusation de sa mère, Nathan Latou éclata en sanglots. Il avait caché son plus grand secret. Sa mère et lui entretenaient une relation incestueuse. Mamie, âgée de 41 ans, avait retrouvé son fils de 22 ans depuis peu. Elle l'avait donné en adoption alors qu'il était enfant. Elle exerçait une grande influence sur lui. La police espérait pouvoir se servir de cette influence pour obtenir les aveux de Latou. Latou accepta finalement de témoigner contre sa mère pour meurtre au second degré. Au même moment, les détectives découvrirent que Mills avait acheté une police d'assurance à son travail et que Mamie avait appelé la compagnie pour faire une réclamation peu de temps après sa mort. Mamie Hernandez Mills avait dactylographié le message sur la machine à écrire de son client en se guidant sur la note manuscrite de Nathan. Chaque fois qu'elle faisait une faute, elle recommençait du début, ignorant qu'elle laissait en quelque sorte le négatif de son message à l'intérieur de la cartouche de la machine à écrire. À chaque frappe, quelques fibres du papier adhéraient au ruban. De son côté, Nathan Latou avait fait mine d'entrer par effraction en s'assurant que son stratagème ressemblait le plus possible au cambriolage qui avait eu lieu quelques mois plus tôt. Mais il avait laissé une empreinte digitale. Nathan et Mamie étaient ensuite montés à l'étage en prenant soin de ne pas réveiller Ted Mills. Une fois dans la chambre à coucher, ils n'avaient pas perdu une seconde. Après avoir tué Mills, ils avaient maquillé la scène en cambriolage. Le message laissé par Mimi avait pour objet de mettre les enquêteurs sur une fausse piste. La mère et son fils étaient ensuite partis en vitesse chez le dentiste. De la clinique, ils avaient téléphoné à la maison, sachant que cet appel pourrait être retracé par la police et qu'il constituerait la base de leur alibi. De retour chez eux, Nathan avait téléphoné au service d'urgence. Il déclara plus tard aux enquêteurs qu'il avait caché l'arme dans un tuyau qu'il avait enterré sous un arbre. Il témoigna contre sa mère devant les tribunaux en échange d'une peine réduite. Mimi Hernandez Mills fut jugée coupable de meurtre au premier degré le 20 avril 1996 et condamnée à la prison à perpétuité. Nathan Latou plaida coupable et fut condamné à une peine de 24 ans d'emprisonnement. Le message laissé par Mimi et Nathan aurait dû pousser les enquêteurs à présumer qu'il s'agissait d'un acte de vengeance de la part de cambrioleurs, mais le couple incestueux avait laissé trop d'indices derrière lui. Le message destiné à mettre les enquêteurs sur une fausse piste les avait au contraire menés jusqu'au vrai coupable. Dans l'État de Virginie, cette fois, des détectives étaient aux prises avec une enquête encore plus sordide. Un jeune homme avait griffonné un mémo sur lequel il mentionnait de terribles intentions. En février 1995, dans l'État de Virginie, des policiers furent dépêchés à la résidence d'une femme âgée, tuée avec une arme à feu. La seule chose qui avait disparu sur les lieux du crime était un billet de $5 dans le sac à main de la victime. Tout portait à croire que le coupable était Richard Webb, 18 ans, le petit-fils de la victime qui vivait chez elle. Richard avait projeté de tuer ses grands-parents, puis voler leur argent et leur camionnette. Mais il avait eu des difficultés à faire fonctionner l'arme à feu et son grand-père était parvenu à prendre la fuite. Richard Webb avait été incapable de trouver les clés du véhicule et il s'était enfui à pied. Il avait été arrêté peu de temps après. La culpabilité de Webb était évidente, mais la police devait déterminer à quel degré. Si le meurtre et le vol de la camionnette avaient été prémédités, Richard Webb serait accusé de meurtre au premier degré. Par contre, s'il avait tué sous le coup d'une impulsion violente et soudaine, l'accusation serait moins sévère. La tâche première consistait donc à déterminer quelles étaient les intentions du meurtrier. Pendant la fouille de la chambre à coucher de Richard, les policiers découvrirent un morceau de carton froissé sur lequel était inscrite une liste de choses à faire. À côté d'activités anodines comme jouer au billard et regarder un film, se trouvait le projet numéro 8, tuer. Puis prendre l'argent et partir. Cette liste allait se révéler précieuse car elle démontrait que Webb avait planifié son crime. Elle fut remise à Michael Moore, expert en analyse de documents au service criminalistique de l'État de Virginie à Richmond. Afin de prouver que Webb en était bien l'auteur, il devrait tenter de relever des similitudes entre l'écriture de cette liste et des échantillons d'écriture de Webb.
L'analyse graphologique est basée sur la prémisse que tout individu possède une écriture manuscrite caractéristique qui peut nous permettre de l'identifier.
La liste de Webb avait été ajoutée aux autres pièces à conviction. Elle fut placée dans un contenant hermétique et envoyée à Michael Moore. L'écriture manuscrite est aussi individuelle qu'une empreinte digitale. Enfant, on nous enseigne à écrire selon des normes précises, mais malgré ces standards, chaque individu développe sa propre façon d'écrire et la conserve pour le reste de sa vie. Ce sont ces caractéristiques qui servent de base à l'analyse. L'examen de Moore consiste à évaluer la rapidité, l'adresse, la hauteur, le degré d'inclinaison ainsi que l'apparence générale de l'écriture. Les similitudes et les différences sont examinées scrupuleusement. Moore essaie de retrouver des séries de combinaisons particulières.
Est-ce que le tracé est de bonne qualité? Y a-t-il des endroits d'arrêt et de départ caractéristiques? Y a-t-il des ratures ou de brusques traits de début ou de fin de mot?
L'analyse de Moore s'échelonne sur trois étapes. Dès le début, il savait que ce travail serait un défi de taille. D'abord, il examina le support sur lequel la liste avait été écrite. Il remarqua qu'une partie superficielle de carton avait été arrachée, laissant à découvert les couches intérieures plus rugueuses. L'écriture avait peut-être été déformée à cause de cette surface irrégulière.
Certaines portions de ce carton étaient si rugueuses qu'il était difficile d'y écrire. À certains endroits, la personne avait dû retracer ses lettres à plusieurs reprises afin d'obtenir des traits visibles.
Il y avait également de la colle sur le carton, ce qui avait aussi gêné le mouvement du stylo. Il faudrait tenir compte de ces détails lors de l'analyse finale. Il semblait bien que la surface rugueuse ainsi que la colle avaient influencé la forme des lettres. À l'article 2 de la liste, le bas du W du mot « work », « travailler », n'était pas incurvé, précisément parce que la colle avait gêné le mouvement. L'analyste devait également déterminer si les boucles fermées des lettres étaient la manière habituelle d'écrire de l'auteur, ou si c'était plutôt à cause de la fluidité de l'encre. Les textures variées de la surface avaient forcément affecté l'écriture. L'analyse n'en serait que plus difficile. La seconde étape du travail de Moore consistait à examiner des échantillons d'écriture du suspect. Moore rencontra de nouvelles difficultés. Pendant sa détention, on avait demandé à Webb de remplir divers formulaires et d'écrire une dictée sur un morceau de carton. Moore procéda à la comparaison des deux écritures, mais constata bientôt qu'elles ne concordaient pas. Webb avait écrit la dictée dans un environnement formel. De toute évidence, la liste initiale avait été écrite dans des conditions différentes. Les deux échantillons se ressemblaient à peine. Bien que Moore eût de bonnes raisons de croire que Webb était l'auteur de la liste, il ne pouvait le prouver hors de tout doute. Il devait absolument obtenir de nouveaux échantillons du suspect. Moore demanda aux enquêteurs d'obtenir de nouveaux échantillons d'écriture de Webb, mais cette fois, il leur demanda de recréer la position dans laquelle le suspect avait sans doute écrit la liste.
Le morceau de carton sur lequel la liste avait été écrite nous laissait présumer qu'il ne l'avait pas rédigé assis à une table ou à un bureau. Il était peut-être debout et n'avait pas d'appui. Il tenait peut-être le bout de carton dans ses mains. On ne pouvait pas savoir exactement.
De leur côté, les enquêteurs rassemblèrent tout un assortiment d'écritures de Webb. Des lettres personnelles, des cartes de souhait et quelques poèmes. Comme ces échantillons avaient été écrits à différents moments dans la vie de Webb, ils fournissaient un plus large éventail de son écriture. Moore était maintenant confronté à son plus grand défi, l'examen final, qui consistait à comparer l'écriture de la liste à celle des échantillons de Webb. Il fit agrandir la liste afin de la présenter en cours. Les experts en graphologie se basent sur plusieurs caractéristiques pour identifier une écriture. Certaines sont évidentes, d'autres plus subtiles. Moore remarqua d'abord que la taille des chiffres était toujours sensiblement plus grande que celle des lettres majuscules. Le numéro 1 était plus grand que le C majuscule de Carl, tout comme le numéro 2 était plus grand que le W majuscule de Work. Il retrouva cette particularité dans les autres échantillons d'écriture de Webb. Mais il fut bientôt confronté à un nouveau problème. Webb faisait rarement ses R de la même façon. À l'article 1, le haut de la lettre était arrondi et penché à gauche. À l'article 9, le R majuscule était toujours penché vers la gauche, mais la portion du haut était plate. Moore retrouva ces mêmes variations dans les échantillons témoins de l'écriture de Webb. Elles correspondaient exactement aux variations qui se trouvaient sur la liste. La combinaison de ces caractéristiques ne pouvait mener qu'à une seule conclusion. Richard Webb était bien la personne qui avait rédigé la liste sur le bout de carton. Par conséquent, il avait prémédité son crime. Même si l'on numérise 20 échantillons d'une signature dans un ordinateur, l'appareil ne pourra pas déterminer si le 21e provient du même auteur. Aucun ordinateur ne peut discerner les circonstances qui affectent l'écriture d'un individu.
Les ordinateurs, du moins ceux qui se trouvent sur le marché à l'heure actuelle, ne peuvent pas rivaliser avec le travail d'un être humain.
Lorsqu'il fut informé des résultats de Moore, Webb reconnut sa culpabilité. Il fut jugé coupable de meurtre au premier degré et condamné à la prison à vie. La graphologie avait permis de prouver la culpabilité de ce meurtrier. Mais les experts de cette technique judiciaire doivent toujours s'assurer qu'ils disposent des bons indices avant de tirer leurs conclusions. Les échantillons d'écriture les plus importants peuvent parfois provenir des sources les plus invraisemblables. Une erreur de jugement d'un graphologue fut à l'origine de l'un des plus grands canulars de l'histoire moderne. En avril 1983, le monde entier apprit avec étonnement la découverte du journal intime d'Adolf Hitler à Stuttgart. Un journaliste allemand affirmait avoir découvert les 60 cahiers manuscrits qui avaient été écrits sur une période de 35 ans. Afin de déterminer s'ils avaient bien été écrits de la main du chef nazi, le gouvernement allemand fit appel à une brigade de spécialistes, dont le graphologue Ordway Hilton. Ce dernier avait pour mandat de comparer 7 échantillons témoins de l'écriture d'Hitler à celle des cahiers. À la fin de son analyse, Hilton déclara que les cahiers étaient authentiques. Cette conclusion allait presque détruire sa carrière. En fait, Hilton avait été dupé. Il avait bien établi le lien entre l'auteur des cahiers et les échantillons, mais il n'aurait pas dû conclure trop hâtivement que l'auteur des échantillons était Hitler. La personne qui les avait fournis était en fait la même que celle qui avait contrefait les cahiers. Son nom était Konrad Kurau. Les cahiers furent vendus pour la somme de 2 millions de dollars avant que la fraude ne soit démasquée par une équipe internationale de graphologues, de chimistes et d'historiens. Grâce notamment à l'analyse de la composition et de la qualité du papier, ils avaient déterminé que les cahiers n'avaient pas plus de 4 ans. Après cette découverte, le service des archives du gouvernement d'Allemagne de l'Ouest discrédita les cahiers avec véhémence, déclarant qu'il s'agissait du travail grotesque et superficiel d'un copiste aux capacités intellectuelles limitées. Malgré tout, Kurau eut le culot de faire publier ses cahiers. Heureusement, les experts étaient parvenus à mettre son canular à jour. Mais en général, les documents incriminants aboutissent entre les bonnes mains. Surtout en présence d'un homicide. En 1994, à Smyrna, au Tennessee, près de Nashville, un homme fit un appel à l'aide émouvant à la télévision. Ricky Bryan, un soudeur de 39 ans, avait depuis 5 ou 6 ans une liaison intermittente avec une femme de 72 ans du nom de Charlotte Scott.
I did date the woman for a little over 6 years. She's missing, so we gotta find her.
Charlotte Scott avait disparu 2 semaines plus tôt. Les membres de sa famille avaient bon espoir de la retrouver. C'est la fille de Charlotte, Rosalie, qui avait signalé sa disparition après avoir découvert la porte de son appartement entrouverte. Le 19 octobre, la police fouilla l'appartement de Charlotte Scott. La dernière fois qu'elle avait été vue, elle était au comptoir d'une pharmacie et se dirigeait vers un guichet automatique. Sa voiture était garée devant son appartement. Il n'y avait aucune trace d'effraction. Tout était normal, comme si elle devait rentrer bientôt. Les enquêteurs n'avaient pas de piste. Ils décidèrent d'interroger Ricky Bryan en espérant qu'il pourrait leur donner des informations. Mais Bryan ne semblait pas pouvoir les aider. Il n'était pas en ville au moment de la disparition de Charlotte Scott et ne lui avait pas parlé depuis 3 mois. Bryan ignorait que ses déclarations allaient donner un sérieux coup de pouce à l'enquête. Il ne s'était pas rendu compte qu'il y avait une faille dans son histoire. Le détective Bernard de la police de Nashville avait découvert un peu plus tôt que Bryan avait utilisé la carte bancaire de Charlotte Scott le jour de sa disparition.
Il a déclaré qu'il n'était pas à Nashville, mais nous avions une preuve du contraire grâce à des déclarations de ses proches et des photos prises lors de transactions à la banque près de chez la victime.
L'alibi de Bryan tombait. Le fait qu'il ait utilisé la carte bancaire de Charlotte ne prouvait pas qu'il était impliqué dans sa disparition. Cependant, son mensonge le rendait suspect. Il accepta de se soumettre au détecteur de mensonges et échoua à son test. La police put ainsi obtenir un mandat de perquisition de sa résidence. Les agents se mirent à la recherche d'armes ou d'objets qui auraient pu servir à un enlèvement ou à un meurtre. Malheureusement, ils ne découvrirent rien. Il n'y avait ni indices, ni nouvelles pistes à explorer. L'enquête débloqua enfin quelques jours plus tard. Des membres de la famille de Bryan appelèrent la police pour déclarer que ce dernier leur avait raconté une histoire invraisemblable. Selon lui, Charlotte Scott avait été attaquée par un groupe d'hommes ivres dans un endroit isolé où le couple avait l'habitude de se rencontrer. Ricky avait laissé Charlotte seule quelques minutes pour découvrir à son retour qu'elle avait été tuée. Il se rendait bien compte de l'absurdité de son histoire et n'avait aucun témoin pour prouver qu'il n'était pas impliqué. C'est pourquoi il avait décidé de l'enterrer et de déclarer ne pas savoir ce qui lui était arrivé. Et il n'y avait plus qu'une seule avenue, trouver le corps de la victime. Malgré l'aide de chiens spécialisés, les détectives n'obtinrent pas les résultats escomptés. Michael Thompson, le neveu de Ricky Bryan, entra alors en communication avec le détective Thomas pour lui proposer son aide. La résolution d'un homicide demande beaucoup d'habileté, d'intelligence et une bonne dose de chance. Dans le cas de l'enquête sur le meurtre de Charlotte Scott, la chance portait le nom de Michael Thompson, le neveu de Ricky Bryan. Thompson accepta d'essayer de faire parler son oncle.
Hey Mac, what's going on?
L'aide du jeune homme était providentielle. Le 15 novembre 1994, Thompson rendit visite à son oncle. Bryan se montra très soupçonneux. Il était convaincu que la police avait placé des micros dans sa maison et qu'il était sous surveillance. Il commença par fouiller son neveu pour s'assurer que ce dernier ne portait pas de micro, puis les deux hommes entamèrent une conversation artificielle pour camoufler leur véritable échange. Bryan avait laissé une pelle et un râteau dans la forêt près du corps de Charlotte Scott et il voulait que son neveu aille les chercher. Comme il craignait d'être enregistré, il avait décidé d'écrire ses directives. Après chaque message, il arrachait la page de son cahier puis la brûlait dans un poêle à bois. Il craignait que si la police retrouvait ses outils, elle parviendrait à l'impliquer dans ce meurtre. Au cours de cet échange écrit avec son neveu, Bryan dressa un plan détaillé de l'emplacement des outils et du corps. Il le brûla ensuite comme il avait brûlé les pages précédentes. Il n'y avait plus de preuves. Du moins, pour le moment. Après avoir quitté la résidence de Bryan, Michael Thompson appela immédiatement la police. Il avait mémorisé le plan de son oncle et conduisit les détectives à une fosse dans la forêt, où ils découvrirent un cadavre.
Nous avons tout de suite remarqué l'odeur de chair en décomposition. Nous avons commencé par déblayer l'endroit, et c'est alors que le détective Thomas a découvert le pied de la victime.
La dépouille était écrasée et mutilée à un point tel qu'il était difficile de la reconnaître. Mais l'équipe d'experts parvint tout de même à identifier la victime. Il s'agissait bien de Charlotte Scott. Elle avait disparu depuis près d'un mois. Les détectives pouvaient maintenant procéder à son arrestation. Cependant, ils devaient trouver des preuves irréfutables pour le faire inculper. Ils devaient d'abord démontrer que Bryan savait où le corps avait été enterré. Le témoignage de son neveu risquait d'être insuffisant pour convaincre un jury. Il fallait retrouver le cahier de notes qu'il avait utilisé pour dresser le plan. Avec ce cahier en main, la police pourrait peut-être démontrer que Bryan était parfaitement au courant du meurtre, puisqu'il connaissait l'emplacement du corps de la victime. La police bénéficia à nouveau de l'aide de la famille de Bryan, qui remit au détective Thomas la pièce à conviction espérée.
En décembre, le frère de l'accusé était en train de nettoyer la maison de Ricky Bryan lorsqu'il a trouvé un cahier. Il me l'a apporté immédiatement. Je l'ai regardé et j'ai vu tout de suite qu'il restait comme une sorte d'empreinte.
Les marques étaient à peine visibles, mais Thomas était néanmoins convaincu qu'il s'agissait là d'informations essentielles, à condition de parvenir à les déchiffrer. Il fit appel au laboratoire du service des postes de Memphis, au Tennessee. Plus de 17 000 documents sont examinés dans ce laboratoire chaque année. Il s'agit probablement du centre d'analyse de documents le plus occupé des États-Unis. Le laboratoire est équipé d'appareils spécialisés dans l'analyse du papier et de l'encre. Les experts qui y travaillent peuvent faire réapparaître une écriture qui a été effacée ou encore faire ressortir des signatures raturées. L'utilisation d'un éclairage à infrarouge permet également de rendre certaines encres invisibles fluorescentes. Habituellement, ce laboratoire analyse des documents reliés à des vols de cartes de crédit, des contrefaçons ou des fraudes. Mais il arrive que la police fasse appel à ses services lors d'homicides. L'expert Grant Sperry travaille dans ce laboratoire depuis maintenant 18 ans.
Notre principale responsabilité est d'apporter notre soutien aux inspecteurs du service des postes dans le domaine des empreintes digitales et de l'analyse de documents. Mais dans certains cas, comme celui-ci où il s'agit d'un meurtre, il arrive qu'on fasse appel à nos services.
En décembre 1994, la police remit le cahier découvert dans la maison de Ricky Bryan au spécialiste Grant Sperry. S'il parvenait à rendre visibles les informations contenues dans ces pages blanches, peut-être Thomas pourrait-il faire condamner Ricky Bryan. Il revenait maintenant à Sperry et au laboratoire des postes de déchiffrer les empreintes d'écriture. À l'aide d'une source lumineuse à fibre optique, Sperry parvint à déterminer que le cahier de Bryan contenait bel et bien les empreintes d'un plan et de mots écrits. Il en tira des photographies, puis se servit d'un appareil de détection électrostatique. Cet appareil a pour fonction de rendre visibles les empreintes d'écriture.
Cette machine est extraordinaire parce qu'elle ne détruit rien. En d'autres mots, le document est protégé par la pellicule du système d'imagerie thermique. On peut conserver une copie de toutes les empreintes que nous développons.
Sperry place d'abord la page sur une plaque de laiton et la recouvre d'une pellicule de plastique. Ensuite, la pellicule est aspirée dans les fibres mêmes du papier, au creux des empreintes. Elle est ensuite chargée d'électricité et aspergée d'encre. La charge électrique a pour effet d'attirer l'encre à l'intérieur des sillons. Une fois l'encre en place, Sperry recouvre la page d'une autre pellicule adhésive.
L'étape suivante consiste à bien presser l'adhésif de plastique sur l'image développée par notre appareil. Puis, découper cette image en enlevant l'excédent de plastique.
Le document est ensuite lissé afin d'éliminer le plus de bulles d'air possible. Un seul document peut subir ce procédé de 5 à 10 fois avant de révéler toutes ses nuances. Dans certains cas, l'empreinte est numérisée dans un ordinateur et certains logiciels en améliorent la définition. Dans ce cas-ci, les empreintes étaient si claires qu'un examen à la loupe suffisait. Thomas et Sperry étaient satisfaits du résultat obtenu et de la quantité d'empreintes. Le procédé avait permis de faire ressortir tous les détails du plan. Il était si détaillé qu'on ne pouvait avoir aucun doute sur l'endroit où il menait. Sur ce plan, Bryan avait décrit en détail l'emplacement du corps de la victime. C'était la preuve que les détectives espéraient. Une fois l'image du plan obtenue, Sperry compara les échantillons d'écriture de Ricky Bryan à ceux du cahier.
Dans ce cas-ci, il était non seulement important de reproduire les moindres détails du plan, comme nous l'avons fait, mais aussi de comparer l'écriture de son auteur pour déterminer exactement qui avait dressé ce plan. Il était essentiel de démontrer qu'il savait exactement où le corps se trouvait.
L'analyse révéla que l'écriture qui se trouvait sur le plan était bien celle de Ricky Bryan. Avec ses preuves en main, le détective Bernard put enfin reconstituer le meurtre.
Il est allé chez elle tard le soir, l'a forcée à venir dans cet endroit désolé, l'a tuée, mutilée, puis l'a enterrée dans une fosse.
Ricky Bryan n'avoua jamais avoir tué Charlotte Scott. Il s'accrocha à son histoire d'homme ivre jusqu'à la fin. Il fut jugé coupable de meurtre au premier degré et condamné à une peine d'emprisonnement minimale de 25 ans avant d'être éligible à la liberté conditionnelle. Le meurtrier qui laisse derrière lui des indices sur papier ignore qu'il a peut-être signé des aveux de sa propre main. Un document peut contenir deux messages. Le premier est lisible et n'importe qui peut l'interpréter. Mais le second est invisible et cache parfois de terribles secrets. Les experts en documents sont les seuls à détenir la clé pour déchiffrer la vérité qui se cache sous le papier et l'encre.